Alors, bon matin. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Actes au chapitre 11, les versets 18 à 26 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Actes 11 au verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen.
Merci, mon frère. Et bon matin à tous. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur ensemble et de pouvoir le célébrer, entendre sa parole. Eh bien, dans mon milieu, dans l'endroit où j'évolue, plusieurs rêvent qu'au Québec, le nombre des croyants qui assistent à une église évangélique, toute église évangélique, puisse doubler dans les prochains 10 ans. Qu'on puisse passer, si on veut, on pourrait dire, sans débattre des chiffres, de 1 à 2 % Et pour l'église ici, ça voudrait dire qu'au lieu que 400 personnes environ s'y réunissent, 800 personnes viendraient ici. Ça permettrait probablement à notre famille d'églises de passer de 77 églises à 100 églises. Et quelqu'un me dirait, François, c'est pas un peu fou tout ça? La réponse, c'est oui. C'est un peu fou tout ça. Mais faisons un petit constat mondial ensemble ce matin. Saviez-vous que 25 % de la population vit en Asie? Donc, si je prenais la population mondiale, je brasserais dans un plat et j'en sortirais 4, il y en aurait un qui vient d'Asie. Et c'est un endroit où l'Évangile a une percée incroyable depuis 25 ans. De plus, l'Afrique, les gens spécialistes dans le domaine disent que l'Afrique, d'ici les prochains 10 ans, va doubler de sa population. Et vous savez que plusieurs pays africains francophones, donc cette population-là aussi va doubler. Peut-être que vous ne savez pas, mais à Kinshasa, une ville en République du Congo, RDC, 30 000 églises évangéliques, minimum. On ne peut même pas toutes les compter, tellement il y en a. Une seule ville. Et tout ça va doubler. Et Dieu permet, et je ne fais pas de débat ici, mais Dieu permet qu'un grand nombre de ces nations s'en viennent ici avec l'Évangile et qu'ils vont être utilisés par Dieu pour parler ici de l'Évangile au Québec. Et en plus, on voit que Dieu, de nouveau, permet que l'Évangile soit en train de transformer les cœurs des jeunes Québécois qui habitent ici au Québec, pour ceux qui sont assez vieux, comme il a un peu fait il y a 40 ans dans nos cégeps et nos universités. Nous sommes, en fait, devant la plus grande opportunité de croissance et de démarrage de nouvelles églises ou de revitalisation d'églises comme jamais depuis les 25-30 dernières années. Bien sûr, si on regarde un peu à nos souffrances, nos difficultés, nos limites, ça semble impossible. Mais Dieu nous demande, dans ces temps-ci, au Québec, de lever les yeux vers lui. S'il nous prépare pour cette croissance, vous savez que sur l'île de Montréal, on compte environ 200 églises ethniques haïtiennes. On en compte probablement plus que 50 qui sont latinos. On en compte probablement aussi une cinquantaine qui sont de culture africaine. Et tout ça, sans qu'on le sache trop, mais tout ça risque d'exploser encore plus. Je crois que Dieu a aimé le Québec dans le passé, et pourquoi il ne l'aimerait pas encore dans les années à venir, quand on fait ce constat de tout ce qui bouge au niveau planétaire et de tout ce qui peut se passer ici. Comment allons-nous, si Dieu nous donne une telle croissance, comment allons-nous nous préparer à cela? Et j'aimerais qu'on regarde au premier siècle, puisque eux ont vécu une telle croissance rapide. Laissez-moi d'abord, juste avant qu'on aille dans les livres des Actes, penser juste au monde de l'aviation, parce que ça va nous servir. Vous savez que les avions vont à peu près partout, hein? On peut prendre un avion pour aller dans presque toutes les villes du monde. Mais les compagnies aériennes ont ce qu'on appelle des « hubs », c'est-à-dire des endroits où tous leurs avions vont dans ces « hubs-là » parce que c'est là que la compagnie va réparer les avions, former les gens, former les pilotes, avoir les ressources centralisées pour qu'après, à partir de ces « hubs-là », ils puissent voyager dans plusieurs destinations au pays ou à l'extérieur du pays. Quand je voyage aux États-Unis, c'est évident. Quand on veut se rendre à une destination, on doit toujours passer, par exemple, par Détroit ou Chicago, dépendamment avec qui on vole, parce que c'est là que tous les transferts de gens dans les avions se font. Ce sont les centres importants qui permettent une diffusion. Et je crois que dans les Actes, on a un modèle semblable que Dieu a instauré, et on va l'examiner ensemble et voir comment ça peut être une inspiration pour chacun d'entre vous et toute l'Assemblée ici à Longueuil. En fait, Dieu a utilisé l'Église d'Antioche. Vous savez qu'Antioche était, pour vous imaginer, il me semble que j'aurais rencontré un membre de l'Église d'Antioche au moment où Paul est là, et j'aurais dit, vous allez aider l'Église de Rome à se développer. Il aurait dit, Rome! Il n'y a pas d'auto, il n'y a pas d'avion, et on sait qu'en voiture aujourd'hui, Antioche jusqu'à Rome, c'est minimum 34 heures de voiture sans arrêt. Je parle à des gens qui n'ont aucun de ces moyens-là, puis je dis, vous allez avoir un impact à Rome. Il aurait certainement dit, c'est pas croyable. Pourtant, Dieu l'a fait. On va voir comment. Non seulement il faudra, s'il y a cette croissance, revitaliser des églises avec déjà existantes et en démarrer de nouvelles, il nous faudra aussi avoir des églises ressources au sein de tout ça, comme celle d'Antioche. Antioche était la troisième ville d'importance dans sa région. J'ai regardé sur Internet, Longueuil, c'est la cinquième ville en importance au Québec. Quand même intéressant, hein? Vous n'êtes pas loin d'Antioche. Pourquoi Antioche a grandi au premier siècle? Parce qu'elle a reçu énormément de réfugiés. Pourquoi Antioche, pour vouloir croître, a offert la citoyenneté romaine à ceux qui se venaient? Alors, vous imaginez, obtenir la citoyenneté romaine à l'époque, c'était « wow », c'était le passeport majuscule. Alors, beaucoup se sont déplacés dans cette région-là, et même, on va voir à la persécution, c'est là où certains vont aller aussi. C'était une ville avec plein de ségrégation, avec tous les arrière-plans économiques. On parle d'un demi-million de personnes, probablement, à l'époque. quand les gens de cette ville avaient des réunions avec des gens de toutes les classes sociales et de toutes les ethnies, mais réunis ensemble au même endroit, les gens d'Antioche regardaient ça, puis ils disaient, « Mais c'est quoi ça? » C'était complètement différent en dehors de la ville, parce que sinon les autres, tout le monde était ensemble selon leur statut. Ici, c'est comme si les statuts n'importaient plus, l'identité n'était pas son statut, c'était d'être ensemble pour une identité complètement nouvelle. Et c'est pourquoi qu'on a lu que c'est dans cette ville-là que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés des chrétiens. Ils leur ont donné une nouvelle identité. Ça, c'est ceux qui suivent Christ. C'est cette gang-là. Eux, ils suivent Jésus. Et c'était tellement contrastant avec le reste de la culture que ça attirait l'attention. On va voir trois points ce matin d'une église ressource pour soutenir la croissance et le développement dans le plan de Dieu. Premièrement, et juste avant le premièrement, on va prier. Notre Dieu, combien se passe de choses sur notre planète alors qu'on n'est même pas au courant? Seigneur, ton Église est en train de s'établir partout dans le monde. Et Seigneur, on sait qu'il y a des endroits difficiles et d'autres en pleine croissance. Et Père, on te prie ce matin que tu nous aides à voir pour chacun d'entre nous, selon ce que ça nous interpelle, la place que mes frères, mes sœurs pourraient jouer ici à Longueuil en voulant et désirant cette Église ressource pour qu'elle puisse accueillir cette croissance que tu veux faire dans les cœurs ici. Encore une fois, merci de nous montrer partout que tu attires des jeunes à toi et des gens de partout dans le monde à toi. Et Seigneur, aide-nous à bâtir ton Église dans ce contexte-là, ici, entre autres sur la rive sud. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Le premier point, c'est Dieu utilise les chrétiens ordinaires pour partager la bonne nouvelle et démarrer des églises. Dieu utilise des chrétiens bien ordinaires pour partager la bonne nouvelle. Ceux qui avaient été, verset 19, dispersés à cause de la persécution. Alors, dans Acte 2, il y a eu une première Pentecôte et on a vu le salut dans la Nouvelle Alliance être donné aux Juifs. Et dans Acte 8, une autre semi-Pentecôte et on voit que l'Évangile a été donné aux Samaritains. Et dans Acte 11, à cause de Corneille, maintenant, le Saint-Esprit a démontré que l'Évangile est pour toutes les nations. Pierre a dû comprendre cela avec la vision de Dieu. Alors, ceux qui sont persécutés après la persécution d'Étienne sont rendus en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Il n'y a pas d'église encore à Antioche, là. Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Alors, la plupart débarquent, ils sont Juifs et ils parlent à des Juifs. C'est normal. Mais ça n'en prenait quelques-uns, des weirdos, des bizarres, comme toi et moi. Et là, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche et eux se sont adressés aux Grecs. Et là, ils ont fait de quoi de pas mal flyer. Ils sont allés voir un autre gang que celle qui était naturelle d'aller. Et c'est des gens bien ordinaires qui ont été déplacés. Ils sont comme des migrants, ils n'ont rien. Mais la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Si on leur a demandé, c'est qui a implanté l'Église? Ils auraient dit, je ne sais pas. Il n'y avait pas de structure. Il n'y avait pas d'implanteur. Mais la main du Seigneur était avec eux. Il n'y avait pas de super pasteur, il n'y avait pas de super Yannick, il n'y avait pas de super équipe de leaders formés, il n'y avait pas de superstar. Il y avait des chrétiens ordinaires, un groupe de croyants ordinaires qui se sont mis à témoigner. Est-ce que j'ai ici dans la salle ce matin plus que qu'est-ce qu'eux avaient? Fois mille dans leur cas. Ils n'ont rien, ils sont déplacés par la persécution. Un groupe de réfugiés qui s'enfuient. On ne connaît même pas leur nom. L'auteur des Actes, Luc, qui est un gars de détail, n'ose même pas mentionner quelques hommes parmi eux. On ne sait pas c'est qui leur nom. Et dans le livre des Actes, jusqu'à maintenant, on parlait quoi quand on évangélisait? C'était des croyants juifs qui parlaient des Écritures juives à propos d'un Messie juif. C'était contre-culturel au max pour aller voir les Grecs. Mais la main du Seigneur était sur eux. Amen. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas d'église encore. Il n'y avait pas de ressources financières. Il n'y avait absolument rien. Dieu utilise des chrétiens ordinaires pour démarrer des églises et faire son œuvre. C'est pas merveilleux, ça? Wow! Gloire à Dieu! Toute la gloire va à lui. Ils sont allés vers un nouveau champ missionnaire qui n'était pas atteint, les Grecs. Si on pense à la rive sud ici, où aller? Où est-ce que Dieu va vous conduire? Allez dans toutes les places. Assurez-vous que tout est couvert. Les sportifs, les intellectuels, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les amateurs d'hockey. Hein? Invitez-en 15-20 dans votre salon. Ils vont venir. C'est là que c'est l'heure. C'est la fièvre qu'on dit. Allez là où ce que Dieu veut. Il y a une ville. Et il y a des fois, les nations qui sont ici réunies ce matin, invitez-vous, invitez les Grecs, entre guillemets, parmi vous, mangez avec ceux que vous n'auriez jamais osé penser, imaginer. Invitez-vous, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire juste par le fait que vous invitez, et vous invitez la famille au complet de ceux que vous invitez, et Dieu va faire des choses extraordinaires avec des chrétiens ordinaires. Amen, hein? Amen! Sortons de notre zone de confort, comme ces quelques hommes qui ont fait dans le texte la poignée de croyants ordinaires, remplis du Saint-Esprit, avec aucun modèle, aucun recul, à froid, annonce Jésus comme Seigneur, sans église, sans rien, à leurs amis, à leurs voisins, dans une ville étrangère, avec des gens de partout. Et Dieu a fait naître une église qui va devenir une église ressource dans cette ville-là, à Antioche. C'est vraiment gloire à Dieu. Et c'est dangereux, des fois, de croire qu'on a une force. Nous, on a des ressources aujourd'hui. On a une église, on a des modèles, on a tout. Et des fois, on s'appuie trop sur ces choses-là. Et souvent, la Bible nous dit à tellement de reprises que Dieu nous utilise quand on est faible. Quand on tombe à genoux, on dit, « Seigneur, on ne sait pas quoi faire. Hey, moi, je suis timide, Seigneur, je ne peux pas rien faire. » Mais Dieu avait un plan. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de Jérusalem. C'est tellement beau ce qui se passe là que tous les apôtres qui sont encore à Jérusalem, ils envoient Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il a vu la grâce de Dieu, il s'en est réjoui, il a commencé à les enseigner. Il leur a demandé c'est qui l'implanteur. Ils ont dit on ne sait pas. Alors, une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Alors, un leader arrive et Dieu suscite encore plus de croissance à cette église. Et là, Barnabas s'est dit, « Attends une minute, là, j'y arriverai pas tout seul, ici-là. » Alors là, il est allé chercher un gars en France qui s'appelle Clément. Non. Il est allé chercher un gars dans une autre place qui s'appelait Paul. « Paul, viens-t'en ici, j'ai besoin de toi. » Paul connaissait les Romains. Paul connaissait les Grecs. Barnabas est allé chercher une ressource précieuse pour travailler avec lui en équipe. Et l'Église s'est mise à grandir en santé, avec force, avec plein d'Esprit Saint et de foi, avec l'enseignement de la parole de Dieu qui était donnée. Nous, là, comme ces gens-là qu'on ne connaît pas leur nom, là, ces dudes, ces weirdos là, qui ont été parlés aux Grecs, là, on ne sait pas comment ils s'appellent. Vous savez quoi? Nous, on est comme quand, mettons, le premier ministre va rentrer dans la pièce, là, il y a quelqu'un d'un micro qui dit « Maintenant, le premier ministre! » Là, tout le monde applaudit et tout le spotlight va être sur le premier ministre. Il n'y a plus personne en se couchant le soir qui se souvient du dude qui a dit dans le micro « Voici le premier ministre! » Nous, on est comme ça. Ce n'est pas à propos de nos noms, de ce qu'on a, mais c'est à propos de la personne qu'on présente. On dit Jésus, puis là, on veut que les gens soient tous focussés sur Jésus après. Pas vrai? Alors, c'est notre rôle à nous, de simplement annoncer. Et Dieu fera croître. Et les disciples furent appelés chrétiens, comme je disais. Dieu utilise des chrétiens ordinaires pour partager la bonne nouvelle. Et je crois que vous avez plus ici que les gars d'Antioche avaient à l'époque. Dieu peut faire de grandes choses. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit dans le texte aussi? Pour parler d'Antioche, je dois aller ailleurs que Acte 11. On en parle trois fois dans les Actes, au chapitre 13, au chapitre 14. On va sauter au chapitre 14 pour ceux qui ont une Bible. Et on va lire quelques versets aussi. Mais imaginez, on va comprendre ça à la fin. Je fais les choses un peu à l'envers ici. Deux gars vont être envoyés, Paul et Barnabas. On va finir avec ça tantôt. Mais là, ils sont allés un an en voyage missionnaire. Imaginez que l'Église de Longueuil a envoyé Clément et Yannick pendant un an pour l'avancement de l'Évangile. Et il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de texto. Et là, ils reviennent après un an. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé? C'est ça qu'Antioche a vécu. Dieu utilise une Église qui reproduit son cycle de vie partout. Ce que Dieu a fait à Antioche, Paul et Barnabas se disent, on va aller le répliquer ailleurs. On va partager, on va multiplier ce cycle de vie-là. Quel était ce cycle de vie? On lit à la fin du chapitre 14, ceci. Quand ils eurent évangélisé cette ville, là où ils étaient, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, là où ils avaient fait la même chose. Ils avaient évangélisé et fait un certain nombre de disciples. Verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Verset 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, ils ont évangélisé, ils ont fait des disciples, ils ont nommé des anciens. Et au verset 26, de là, après avoir fait toutes les villes nommées, ils s'embarquèrent pour Antioche. Et d'où il avait été recommandé à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il venait d'accomplir. Après leur arrivée à Antioche, ils convoquèrent l'Église, comme ce matin, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent longtemps avec les disciples. Deux hommes qui partent et ils reproduisent le cycle d'Antioche, ils ont partagé la bonne nouvelle, ils ont fait des disciples et ils ont établi des anciens. Voilà comment deux missionnaires débutaient des églises il y a 2000 ans. Et je crois que Dieu nous appelle à refaire la même chose en 2026. C'est l'ADN, c'est la même base. Luc prend le temps de nous détailler le rapport missionnaire. Il avait 28 chapitres pour nous raconter 30 ans. Et ce qu'il nous donne ici, c'est l'esquisse, la structure missionnaire des premiers missionnaires envoyés d'Antioche. Vous savez, on peut avoir une assemblée le dimanche, mais très peu de disciples là. On peut accumuler de l'information biblique, mais ce n'est peut-être pas du discipulat. Pour que ce soit un discipulat complet, on voit que non seulement ils étaient en train d'évangéliser, ils étaient en train de faire des disciples avec d'autres personnes, ils étaient actifs, c'était leur vie, et ils venaient s'être enseignés aux pieds des apôtres. C'était comme leur repos. Le dimanche, c'était comme leur repos en vue d'aller vivre la mission pendant toute la semaine. On dit que la mission existe car l'adoration existe. Connaître Jésus, c'est automatiquement, quand on saisit cette bonne nouvelle, on est amené à l'adorer en le présentant à ceux que Dieu met sur notre route. Lorsque Dieu guérit un démoniaque dans Luc chapitre 8, il voulait suivre Jésus, lui. Il voulait être au pied de Jésus. Il venait d'être incroyablement transformé. Et Jésus lui dit, « Reste dans ton village et dis à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. » On apprend à suivre Jésus et à vivre et à marcher par l'Esprit-Saint dans notre appel missionnaire de toute la semaine. Ce culte sert de repos, comme je disais, et de formation pour votre envoi en mission toute la semaine. D'ailleurs, en latin, le mot « messe » que les catholiques québécois connaissent, c'est le mot « mission ». C'était « aller dans votre mission maintenant que vous avez été nourri par le Christ ». Et ça commence souvent par un détail, les amis. Je vais parler de ma femme, là, Nathalie, qui est là dans ce coin-là. Là. Pendant la COVID, une nuit, elle ne dormait pas. Et là, elle se dit, « Hey, ils ne peuvent plus aller dans une résidence personne âgée, là où elle travaille, à l'accueil. » Et puis, elle se dit, « Ils ne peuvent pas aller à la messe, tout est confiné. » Elle dit, « Je vais leur proposer des études bibliques en vidéo. » Avec crainte, elle va voir le patron de l'entreprise. Elle dit, « J'aimerais faire ça. » Il dit oui. C'est incroyable quand tu y penses. Et Nathalie, pendant des semaines et des semaines, va lire la parole de Dieu et enseigner et annoncer Jésus. Et ça allait dans toutes les télévisions que tout le monde écoutait parce qu'il n'avait pas le droit de sortir nulle part d'autre. Et là, Nathalie a été connue. Et là, tous les résidents et résidentes commencent à venir vers elle après ça pour ouvrir leur vie. Et elle a des occasions de prier, de pleurer, d'annoncer Jésus avec eux. Et maintenant, il y a un article dans le journal qui s'appelle « Les chroniques de Nathalie » à chaque mois qui continue d'être fait et des études bibliques dans cette résidence-là depuis. Gloire à Dieu, hein? Un petit détail, un déclic. Priez. Priez dans les semaines à venir. Que Dieu vous montre ce déclic. Où sont les Grecs? Dieu, Seigneur, montre-moi. Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois ouvrir ma maison? Qu'est-ce que je dois faire? Pensez pas à des affaires de fou d'aller dans la jungle pour les 7 prochaines années avec des tribus cannibales. C'est pas ça que je vous dis, là. Parlez à ces gens et la main du Seigneur, si elle est avec vous, va faire porter du fruit que vous auriez jamais imaginé. Vous savez, évangéliser, faire des disciples, nommer des anciens, ce n'est pas un programme dans l'Église primitive. C'est une culture. C'est une culture de vie. Ce n'est pas un programme. Il n'y avait pas besoin qu'un pasteur dise « Assieds-toi ici, on va passer les 12 étapes suivantes. » Il n'y avait pas besoin de ça. Ce n'était pas un programme. C'était une culture. C'était une culture. Tim Keller disait ceci, « Si tu n'es jamais persécuté, c'est probablement que tu n'es pas en mission si tu es toujours persécuté, c'est probablement que tu manques de sagesse. C'est intéressant, hein? C'est entre les deux. Si tu n'es jamais persécuté, tu n'es probablement pas en mission. Mais si tu es toujours persécuté, tu manques de sagesse. Que Dieu nous appelle à être dans cet équilibre-là, dans cette culture-là. Et Dieu s'en occupera. Je bénis Dieu pour notre église sœur à Sherbrooke, qui, après avoir vécu différentes épreuves, était devenue plus petite, souffrant, c'était difficile. Et ils ont persévéré, malgré tout, ils se sont remis à la mission par la foi, alors qu'ils avaient peu de ressources. Ils ont commencé à voir les fruits de l'Évangile. Et Dieu a placé dans le cœur d'un homme qui n'était pas loin, avec un collègue comme Paul et Barnabas, d'aller s'ajouter à ce noyau-là et de voir, en enseignant les disciples, de voir ce que Dieu allait faire. Et Dieu est en train de faire croître de nouveau cette église à Sherbrooke. Et ils vont, sont en train maintenant d'évangéliser, former des disciples et nommer des anciens. Et l'église est en train de croître. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait. Alors, c'est le même Dieu aujourd'hui? À Antioche, à Sherbrooke, à Longueuil. Ils ont identifié des gens, ils les ont accompagnés, ils les ont équipés, ils les ont nommés à devenir ses leaders dans la fin de ce cycle-là, le cycle de la vie. Et ce que je souhaite, c'est que cette église, avec toute, maintenant à Sherbrooke, avec toute l'équipe qui voit, on les voit devenir une église ressource pour aller je ne sais pas où Dieu va les utiliser. Et c'est ce que je souhaite aussi ici à cette église, qu'on puisse le voir. Et pour former ses leaders, nommer ses anciens, aujourd'hui, on a la magnifique ressource d'un séminaire au sein de notre famille, Sembec, qui est là pour aider les églises ressources et les églises à former, nommer, identifier, équiper et former des leaders, hommes et femmes, pour servir selon leurs dons et des hommes pour devenir pasteurs d'église. Et tu peux le faire à temps plein, à temps partiel, au rythme que tu veux, avec l'accompagnement d'un coach, d'un mentor, pour être dans le cycle. Dans quel cycle? Parce que Dieu utilise une église qui reproduit son cycle de vie partout. Les croyants témoignent, Dieu sauve. Dieu leur envoie des enseignants, les chrétiens sont enseignés. Dieu appelle certains à quitter, à être envoyés. D'autres églises sont restaurées ou implantées. Que Dieu donne à l'Église de l'espoir de voir cette œuvre d'Antioche être reproduite ici à Longueuil dans les 10 prochaines années. Amen. Et la base, on l'a dit au point 1, des chrétiens ordinaires. 2, Dieu utilise le même cycle de vie. Troisièmement, troisième point ce matin, je ne sais pas si je lis bien, mais ça me dit moins 195 minutes. Fait que si je lis bien, il me reste 195 minutes. Ah, ils l'ont changé. Hein? C'est parce que j'ai parlé qu'ils l'ont changé. Ça change encore plein de... Ils me donnent plein de chiffres. Je vais voir ce que ça veut dire. Acte 13, verset 1. Acte 13, verset 1, on va voir la base à l'origine de ce qu'on a vu au chapitre 14. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, bien sûr, on l'a vu depuis chapitre 11. Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voyez-vous, quelques années plus tard, il n'y a plus juste Paul et Barnabas, mais il y a toute une équipe maintenant, et avec des dons de prophètes et d'autres de docteurs. Et d'où sont venus tous ces gens-là? De l'Église, d'où ils étaient. Dieu va utiliser une Église qui envoie. Et une façon qu'elle utilise une église qui envoie, c'est qu'elle va redonner. Parce que Dieu aime qu'on donne avec générosité, parce qu'il nous redonne avec générosité, parce qu'il est fier de prendre part à sa propre œuvre qui est de bâtir son église. Ces anciens de l'église d'Antioche ne sont pas arrivés en parachute, où le toit se fend en deux et puis là, les gens tombent de même du ciel. Là, le gars de bâtiment, il dit, « Ah non! Il faut tout recommencer. » Non, ils ont identifié, ils ont recruté, ils ont fait ce qu'ils ont fait ailleurs. C'est intéressant. Notez, c'est pas juste ici la beauté qu'ils ont monté une équipe. C'est qu'ils ont monté une équipe avec la diversité de l'Église qui était à Antioche. C'est intéressant. Siméon appelé Niger. Niger veut dire noir. Donc, il avait probablement une peau foncée. Et il y a Manahem qui a été avec Hérode, donc il vient d'une classe noble et Saul qui travaillait avec des origines romaines et Barnabas avec ses origines juives et toute cette équipe diversifiée est ensemble en train de reproduire le cycle de vie. Ils sont en prière et ce qui est intéressant, c'est que Lucius vient de où? Lucius, il vient de où? Il vient de Cyrène. Ça vous dit quelque chose? Pas la Cyrène à la fin de la partie d'hockey, là. Mais Cyrène, la ville, et les deux gars qui ont commencé à parler, les quelques hommes qui ont commencé à parler aux Grecs, ils venaient de Cyrène. Alors, est-ce que c'est ces propres gens-là qui sont devenus maintenant anciens de l'Église? Peut-être. L'effet n'est pas ici justement d'une équipe normale, mais d'une équipe de toutes sortes de diversités unies par l'Évangile. Et les futurs responsables dans l'Église ici ce matin et ceux qui sont dans la moisson sont déjà là. Il y en a déjà ici que Dieu a donné à l'Église de Longueuil, car il est fidèle à sa parole. Et d'autres qui sont à venir dans la moisson quand vous allez passer de 400 à 800. Et tous ces gens-là vont être levés et afin qu'on puisse voir. Et là, si ici, ça voudrait dire envoyer Yannick et Clément, et il y en a une couple qui dirait enfin, il y en a une couple qui dirait oh non! Mais ça serait extrêmement coûteux pour l'Église de faire ça. Et eux, ils ont juste quelques années d'existence, pas 60 ans comme ici. Wow! Pendant qu'ils jeûnaient et priaient. Moi, je pense qu'ils devaient être en train de prier puis jeûner. Ah, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? C'est ça qu'ils priaient puis jeûnaient. Peut-être que leur bâtiment était plein à craquer. Peut-être que c'était d'autres choses. Mais ils étaient en train de se dire, Seigneur, tu ne nous as pas tout donné ça pour nous. Et là, le Saint-Esprit les dirige et dit, vous allez envoyer ces deux gars-là, comme on a lu au deuxième point. Dieu a parlé. Et ça sera toujours un sacrifice quand Dieu dit, envoie-moi. Ça sera toujours un sacrifice. C'est fou quand même. Paul et Barnabas. Ça aurait pu être Paul et Lucius ou Barnabas et... Non. Et en même moment, un prophète parmi eux, Agabus, parle à l'Église d'Antioche à cette époque-là. On voit au chapitre 11 et leur annonce, je reviens au chapitre 11, que par l'Esprit, il allait avoir une grande famine. Et là, il leur propose, il leur annonce cette famine à Jérusalem. C'est même pas, il aurait dit, ah, c'est à Jérusalem, leur problème. Qu'ils se débrouillent. Non, 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 non. Et là, même pas dans le budget, là, ils vont faire une offrande. Et ils vont faire une énorme offrande que des hommes dont Paul va aller porter le fruit de cette offrande-là à Jérusalem pour que l'Église de Christ là-bas puisse traverser ces temps difficiles. Et là, le trésorier de l'Église est content parce que c'est hors budget. Il dit, faites ce que vous voulez, c'est hors budget. C'est pas une générosité qui leur est imposée, c'est non imposé. C'est motivé par l'annonce de cette prophétie et motivé par une compréhension riche de la bonne nouvelle de Jésus. Cette nouvelle qui nous dit qu'il s'était fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ils l'ont compris et ils ont donné. Alors, une église ressource, on ne va pas juste envoyer des gens, elle va envoyer des ressources aussi, financières. Pourquoi? Pourquoi l'Église de l'espoir donnerait ainsi de ses ressources pour être dans le confort? Loin de là. Mais pour voir Dieu à l'œuvre, Dieu agir, comme on le voit dans le Nouveau Testament, avec les dons que vous avez reçus, on est allé là. Lisez le livre de Réal Goulet, un de nos pionniers qui écrit son livre derrière moi. C'est tellement édifiant, un homme ordinaire qui a cru à Dieu, mais il regrette de ne pas avoir assez cru à Dieu. C'est vraiment cool, il fait l'examen dans son lit. Il était directeur au camp des Bouleaux, et là, il devait mettre dans les papiers d'enregistrement la valeur maximale du camp. Puis là, en tremblant, il a écrit 2 millions. Il a dit, ça n'a pas d'allure, je le sais. Le camp vaut au moins 10 millions aujourd'hui. Et là, il regarde ça, puis il a vu que Dieu a agi. Il n'y avait rien quand ils ont commencé. Dieu a béni. Le camp a grandi. Chers amis, que Dieu accomplisse ce rêve ici. Quelques gars sont venus évangéliser avec leur femme, peut-être, à Longueuil, il y a plus de 60 ans de ça. Et après un certain temps, des anciens ont été nommés. Et j'espère qu'on pourra lire dans la suite de ce chapitre que tout le Québec, la francophonie mondiale, en Asie, en Afrique, il y aura eu un impact par la foi des chrétiens ordinaires qui étaient à Longueuil. Qu'il y ait ici un culte à 10 heures en français avec 400 personnes en Maine, qu'il y en ait un de 400 à midi en Swahili, qu'il y en ait un de 400 à 15 heures en espagnol et qu'il y en ait un de 400 à 19 heures en arabe. Amen. Chers amis, Longueuil, je suis désolé, n'est pas le centre du monde. C'est une triste nouvelle, n'est-ce pas? Comme ce n'est pas le centre du monde, il faudra envoyer avec sacrifice. Vous le faites déjà. Vous avez envoyé dans le passé et vous envoyez présentement et vous êtes à l'œuvre à donner la main ouverte et je dis gloire à Dieu pour ça. Mais si on met notre foi en Dieu et qu'on lève les yeux vers Dieu, où est-ce que tout cela nous amènera? À combien d'églises? À combien d'impacts? Pour votre propre gloire? Pour la gloire d'Antioche à l'époque? Pas une miette. Pas une miette. Comme l'annonceur pour que les gens entendent et croient au merveilleux nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que d'autres groupes de 400, que d'autres dans le monde et que d'autres ailleurs puissent croire et placer leur foi et connaître la beauté de la révélation de Jésus-Christ par Dieu le Père. Comment tout cela fut possible à l'époque? Pour que les gars de Cyrène parlent aux Grecs, pour que les gens deviennent des anciens, pour que Paul et Barnabas soient envoyés, pour que tout cela soit possible. Ce ne fut possible, et ça ne sera possible de l'Église Ressources de Longueuil, l'Église Antioche-Longueuil, que par le fait que le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel pour vivre une vie d'obéissance parfaite et mourir avec souffrance sur la croix, en donnant sa vie pour que moi et toi, je puisse recevoir de lui une vie parfaite, le pardon de tous mes péchés, une justice parfaite qui m'a été donnée par Dieu, la justice de Christ lui-même, dans laquelle on est unis en Jésus-Christ par la foi en lui, avec une espérance glorieuse qui me permet de donner tout de ma vie dès maintenant pour le servir et annoncer cette bonne nouvelle. Voilà la base, la raison, la cause et l'origine de tout cela. Zéro mérite de notre part. Zéro mérite de ma part, de votre part. C'est une bonne nouvelle, un point sur tout. C'est la puissance de Dieu qui permet à des églises ressources, des églises Antioche, dans le monde entier, de rayonner pour que le message soit envoyé comme les avions dans toutes les villes. On est des faiseurs de disciples inconnus, frères et sœurs. On est des faiseurs de disciples inconnus qui seront bientôt avec Jésus. Et votre destination finale, pour parler d'avion, ce n'est pas ici. C'est dans la nouvelle Jérusalem avec Jésus. Et peut-être tu t'es installé à vivre un petit peu trop comme si c'était la destination finale. Tu as arrêté de parler aux Grecs. Tu as arrêté de lever la main quand le Seigneur dit « Envoie-moi ». Mais vous savez, on est des faiseurs de disciples inconnus. Nos noms sont toutefois écrits dans le livre de vie. Les quelques personnes qui ont parlé aux Grecs, on n'a pas leur nom, mais leur nom est écrit dans le livre de vie. Et s'il y a un endroit que ton nom devrait être écrit, n'est-ce pas là que c'est la chose la plus merveilleuse au monde? Amen. Mon nom, alors que je témoigne à quelqu'un qui témoigne à un autre, puis on ne sait pas d'où ça vient, ça, ce n'est pas grave. Que vos noms soient écrits dans tous les livres de ce monde, mais que vous n'avez pas fait la mission de Jésus, ça ne vous donnera rien. Mais le livre le plus prestigieux, nos noms sont écrits là, parce que Dieu utilise des chrétiens bien ordinaires. Seigneur, tu nous as donné l'histoire de cette église d'Antioche dans les Écritures. Je crois que c'est pour nous inspirer aujourd'hui. Quelques croyants inconnus sont devenus une église multiethnique. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, quelques croyants de cette époque sont devenus une église multiethnique et qui, grâce à leur générosité et avec leur esprit de main ouverte, ont laissé un fruit dans tout l'Empire romain. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ils sont allés jusqu'à Rome. Jusqu'où irons-nous ici, sur la rive sud ce matin? Seigneur, utilise quelques croyants dont je ne connais pas leur nom, mais toi, leur nom est écrit dans ton livre de vie. J'aimerais t'inviter ce matin même à considérer dans ton cœur, et tu peux le faire physiquement, Dieu est là, lever la main et dire, « Seigneur, moi je suis un chrétien ordinaire et ouvre-moi une porte dans les prochaines semaines. » Puis un autre peut lever la main ici ce matin, dans son cœur ou physiquement, puis dire, « Moi, je suis le futur ancien ici dans l'Église. » Puis un autre peut lever la main dans son cœur ou physiquement pour dire, « Envoie-moi, Seigneur. Je pense que c'est moi qui dois être envoyé. » Seigneur Jésus, prends toutes les mains levées ici ce matin et fais une œuvre. Non pas pour que nos noms soient glorieux, mais que les gens puissent dire, « Je crois au Seigneur Jésus. » Amen. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Reçois tous ses cœurs et ses mains pour ta gloire. Amen.